En ce 24 février, c'est l'anniversaire du décès de Paul Claudel, qui était diplomate et un très grand écrivain. Certains le classent comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Il est né en 1868, il est mort en 1955. Et avant la fin du siècle dernier, tout jeune, il s'est converti subitement à Notre-Dame de Paris. Un peu à la façon de Frossard, un peu d'André Frossard, dont je vous ai déjà parlé. Paul Claudel, qui a enchanté mon enfance, et je suis perdu dans la quantité de livres que j'ai de lui et sur lui. Il y a tellement d'études qui ont été faites sur lui. Et je m'inspire d'une étude très simple, d'un de ceux qui l'ont le mieux connu, c'est Jacques Madaul. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai dit que Paul Claudel est né en 1868. Il est né, en fait, le 6 août, en la fête de la Transfiguration. Il est né en Champagne, comme mes lointains ancêtres du XVIIe siècle, à Villeneuve-sur-Fère, en Tardenois. Ils ont des noms longs pour leur village. C'est un petit village de l'Aisne dont son grand-oncle a été curé. Alors on peut voir dans cette rencontre un signe de la Providence. Dans la famille de Paul Claudel, il y avait eu plusieurs prêtres. Et pourtant, cette famille, comme il l'écrit lui-même, était indifférente. Et il ajoute, après notre arrivée à Paris, ma famille devint nettement étrangère aux choses de la foi. Il raconte ça dans un très beau récit intitulé « Ma conversion ». On ne doit pas s'en étonner outre mesure que des familles aboutissent comme ça, on le sait, et aujourd'hui, autour de nous, c'est comme ça, très souvent. Hein. C'est dans la seconde moitié, quoi, du siècle dernier, c'était le cas là, de très nombreuses familles bourgeoises, et ça a recommencé encore. Claudel ajoute d'ailleurs, « Auparavant, j'avais fait une bonne première communion qui, comme pour la plupart des jeunes garçons, fut à la fois le couronnement et le terme de mes pratiques religieuses. On dit aujourd'hui, c'est sa première et dernière communion, ce pauvre petit. Eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein? Ici même, à Montréal, c'est devenu comme ça, à Ville-Marie. Nos enfants ne sont plus là dans nos églises. Alors, comment décrire, par exemple, l'atmosphère de ces tristes années 1880, comme il dit, c'est son texte. Dans d'autres termes, on peut décrire ça dans d'autres termes que ceux qu'il emploie lui-même, non. J'aime autant utiliser ces termes. Il semble que le catholicisme ait subi alors une espèce d'éclipse presque totale sur le plan intellectuel, comme ici au Québec actuellement de nos jours. Alors voici le texte des extraits de son texte sur sa conversion. À 18 ans, je croyais donc ce que croyaient la plupart des gens dits cultivés de ce temps. J'acceptais l'hypothèse que tout était soumis aux lois et que ce monde était un enchaînement d'effets et de causes que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement. Tout cela me semblait d'ailleurs fort triste et fort ennuyeux. Claudel se trouvait, en somme, dans cette espèce de désert lunaire, où déambulent les foules immenses des incroyants. Claudel a conservé un souvenir affreux de ses années passées dans l'incroyance, et c'est lui qui le dit, en ajoutant même qu'il les a passées dans l'immoralité. Il les a évoqués en une vingtaine de passages de ses œuvres, par exemple dans la première strophe de l'ode jubilaire pour le 600e anniversaire de Dante Alighieri, qui est de 1921. Il écrit, je vous en lis un très bref passage, « Ce monde à lui tout seul qu'il est, c'est difficile de nous persuader qu'il est complet et suffisant. C'est difficile de nous faire croire que nous avons droit sérieusement à pas autre chose. C'est difficile de se boucher tout le temps les yeux et de penser à autre chose. » C'est vrai que ça doit pas être facile d'être un croyant. Or, la pensée de la mort hantait Claudel. Il a été très sensible à celle de son grand-père et aussi à celle d'un grand-oncle qui criait tellement au cours de son agonie qu'on l'entendait d'un bout à l'autre du village, en Champagne. C'est alors que Claudel fait la rencontre de Rimbaud, mais pas Rimbaud en personne, là. Rimbaud, à cette époque, faisait déjà de l'or en Éthiopie, dans le Harar. C'est l'œuvre de Rimbaud qu'il découvre. Il achète dans une revue un petit texte qui l'éblouit. Claudel écrit le 12 mars 1908 à Jacques Rivière. Je vous ai fait une émission sur Jacques Rivière le 14 février 1996. Il écrit « Rimbaud a été l'influence capitale que j'ai subie. » C'est étonnant, hein? D'autres, et principalement Shakespeare, Eschyle, Dante et Dostoïevski, ont été mes maîtres et m'ont montré les secrets de mon art. Mais Rimbaud a eu une action que j'appellerais séminale et paternelle et qui me fait réellement croire qu'il y a une génération dans l'ordre des esprits comme dans celle des corps. Je me rappellerai toujours cette matinée de juin 1886, dont le mois où j'achetais, en fait, c'est 6 mois avant sa conversion, ça, juin 1886. J'ai de la misère à m'y lire mes notes. Où j'achetais cette petite livraison de la Vogue qui contenait le début des illuminations. C'en fut vraiment une pour moi. Je sortais enfin de ce monde hideux de Taine, de Renan et des autres Molochs du 19e siècle, de ce bagne, de cette affreuse mécanique entièrement gouvernée par des lois parfaitement inflexibles et pour comble d'horreur connaissable et enseignable, j'avais la révélation du surnaturel. Le génie se montre là sous sa forme la plus sublime et la plus pure, comme une inspiration réellement venue d'on ne sait où. Je vous réfère à cette émission sur Rimbaud, que j'ai faite aussi le 10 novembre 1995. Quelques mois plus tard, Claudel va lire Une saison en enfer de Rimbaud. On peut s'étonner, mais on s'est même souvent étonné, des deux côtés de la barricade, si on peut dire, de l'influence ainsi exercée par Arthur Rimbaud, qui était un curieux chrétien, autant du moins où il écrivait Les Illuminations puis Une saison en enfer. Et nous touchons ici à l'un des mystères les plus déconcertants. Hein. L'œuvre d'art a une bien autre signification que celle que lui donne celui qui la crée. Les intentions de Rimbaud au moment où il écrivait ses poèmes ont quelque chose de blasphématoire, je vous l'avais dit, comme on a prétendu d'ailleurs. Ou bien, au contraire, et je vous l'avais signalé aussi, et j'avais insisté là-dessus, Rimbaud a été ce mystique à l'état sauvage dont Claudel a précisément parlé quelque part. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui sont de cet avis. C'est un mystique à l'état sauvage que Rimbaud. Et le fait indéniable que Claudel a été profondément ébranlé par la lecture de Rimbaud. Il a été préparé à recevoir quelques mois plus tard cette infusion de la grâce. Et grâce justement à Arthur Rimbaud. Voici ce qu'en dit Claudel. Il n'existe pas d'autre mot que les siens pour exprimer un événement aussi étrange que celui de sa conversion. Il faut lire le texte. Je ne peux pas tout vous lire, c'est trop long. Mais je vous en lis une partie. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, que d'une conviction si puissante et d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards, d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, d'une révélation ineffable. En essayant, comme je l'ai fait souvent, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants qui, cependant, ne formaient qu'un seul éclair, une seule arme, dont la providence divine se servait pour atteindre et s'ouvrir enfin le cœur d'un pauvre enfant désespéré. Que les gens qui croient sont heureux. Si c'était vrai, pourtant, c'est vrai. Dieu existe, il est là. Oh, c'est quelqu'un. C'est un être aussi personnel que moi. Il m'aime, il m'appelle. Et tout ça est arrivé, comme il l'a dit, à ce malheureux enfant qu'il était, qui le 25 décembre 1886 se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Il dit, je commençais alors à écrire, il me semblait que dans les cérémonies catholiques considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié à la matière, et la matière de quelque exercice décadent. Et c'est dans ces dispositions que, coudoyé, bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe, puis n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres, et les enfants de la maîtrise en robe blanche, et les élèves du grand séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay qui les assistaient, était en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat, et j'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie, et c'est alors que se produisit l'événement qui domine tant ma vie, toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Alors il a cru, et les larmes et les sanglots étaient venus, dit-il, et le chant si tendre de l'Adeste Fideles ajoutait encore à mon émotion, émotion bien douce, où se mêlait cependant un sentiment d'épouvante et presque d'horreur, car mes convictions philosophiques étaient entières, Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient, je ne voyais rien à y changer, la religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes. Ces prêtres et les fidèles m'inspiraient la même aversion, qui allait jusqu'à la haine et jusqu'au dégoût. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout, et je n'y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. Un être nouveau et formidable, avec de terribles exigences pour le jeune homme et l'artiste que j'étais, s'était révélé, et je ne savais concilier avec rien de ce qui m'entourait. Ah, l'état d'un homme qu'on arracherait d'un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger au milieu d'un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet état de désarroi complet, ce qui était le plus répugnant à mes opinions et à mes goûts. C'est cela pourtant qui était vrai. C'est cela dont il fallait, bon gré mal gré, que je m'accommodasse. Ah! Ce ne serait pas, du moins, sans avoir essayé tout ce qu'il m'était possible pour résister. Il va résister durant 4 ans. Il ne veut pas. Il ne veut pas appartenir à notre Église. Il la méprise. Il va très loin dans ses descriptions de ce que nous sommes. Il est jeune. Il est fier. Il est orgueilleux. Mais il sait, il a reçu le choc. Il est envahi par la présence de Dieu. Il sait, à Noël, que l'on fête un enfant. Et que cet enfant, c'est Dieu, c'est l'amour qui se révèle. Il en est saisi. Et il devra se soumettre. On peut dire que personne ne peut parler de la conversion de Paul Claudel aussi bien que Claudel lui-même, non seulement parce qu'il est un très grand écrivain, comme le dit Jacques Madaule, mais aussi parce que cette conversion est à l'origine de toute son œuvre, une œuvre grandiose. Mais avant de pousser plus loin, convient peut-être de revenir sur quelques traits extraordinaires. Depuis la conversion de son patron saint Paul, Paul Claudel, à Damas, et je ne crois pas qu'on ait d'exemple d'une conversion à la fois aussi soudaine et aussi totale, sauf celle au XXe siècle d'André Frossard, dont je vous ai parlé aussi. J'ai d'ailleurs fait une émission spéciale sur les grandes conversions subites, le 25 janvier de l'an dernier, conversion subite de Claudel, de Frossard, de Saint-Paul, etc. En un instant, c'est ce qu'il dit, hein, Paul Claudel. C'est le mot qui résume tout. On dirait que le combat commence, un combat qui ne devait pas durer, comme je vous ai dit, 4 ans. 4 longues années. Dès le soir du 25 décembre 1886, sa sœur, Camille Claudel, lui prête une Bible qu'une amie allemande protestante lui avait donnée. Alors Claudel s'engage pour la première fois dans cette lecture. Et il n'interrompra plus jamais la lecture de la Bible. Il sera nourri de la parole de Dieu. Elle est pour Claudel la parole toujours vivante de Dieu. Il lui arrivera, quelques années plus tard, de parcourir le monde, mais l'univers et la Bible, l'univers d'une part, la Bible de l'autre, lui apparaîtront comme un seul livre écrit des deux côtés. Dieu s'est adressé à nous d'une manière indirecte, par l'ensemble de ces choses visibles, qui ne cessent de nous parler de lui, à travers lesquelles il nous faut seulement passer pour l'atteindre. Dieu nous parle à travers nos enfants naissants, c'est ce que on disait aujourd'hui, aux nouvelles, dans ce beau texte du cardinal Turcotte. Un enfant crie l'existence de Dieu. Tout crie l'existence de Dieu. Si on a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et d'une façon plus directe, Dieu parle par la révélation. Mais finalement, les deux faces de ce texte immense que Dieu nous livre, l'univers d'une part et la Bible d'autre part, portent le même message. Et tout le travail de Claudel après sa conversion sera, comme il l'écrivait un jour au père de Tonquédec, l'évangélisation progressive de tous les cantons de son âme, et par conséquent de cet univers aussi tout entier, dont le poète est inséparable et qu'il emporte avec lui, le voulant ou non, chaque fois que l'élan lui est donné, que l'inspiration, comme on dit, la muse qui est la grâce, comme il dit, lui, dans un texte, s'empare de lui. La muse qui l'inspire. C'est la grâce, c'est Dieu lui-même. Il est souvent question dans l'Évangile de ce grain de sénévé, hein? Vous vous souvenez, la plus petite de toutes les graines, qui finit par donner un grand arbre. Cette image me paraît convenir parfaitement à toute la carrière de Paul Claudel à partir du 25 décembre 1886. C'est ce jour-là que Dieu a brusquement déposé en lui le germe qui devait fructifier ensuite pendant plus de 60 ans, de sorte que la conversion de Claudel, si elle est soudaine, et en somme complète dès le premier jour, ne cessera jusqu'à la fin de développer ses conséquences. Et nous, que faisons-nous de ce moment où Dieu nous a pris? Ce moment, on l'a tous vécu à un moment. Qu'est-ce qu'on en fait? Lui, il l'a utilisé à plein. C'est fantastique ce qu'il a fait. D'abord, il y eut les 4 années de lutte qui s'écoulent entre le 25 décembre 1886 et le 25 décembre 1890, jour où enfin Paul Claudel se confesse et rentre enfin dans la communion de l'Église. Le combat spirituel, c'est Rimbaud qui le dit, est plus dur que la bataille d'hommes. Le sang séché fume sur ma face. Hein, c'est Rimbaud qui dit ça. Et pendant 4 ans, donc, Claudel doit patiemment dépouiller le vieil homme. Détruire pierre par pierre l'édifice dans lequel il était jusqu'alors enfermé. Nous pouvons en avoir des échos à travers fragments d'un drame, et surtout à travers les premières œuvres, hein, Tête d'or, La ville, La jeune fille Violaine, L'échange et même Le repos du 7e jour. Dans Les vers d'exil, Paul Claudel écrit ce qui suit. Paul, il nous faut partir pour un départ plus beau. Et tu t'es là, c'est comme Abraham, il faut partir. Et nous devons tous partir intérieurement, quitter notre vieil homme pour aller vers le Christ. Et la pérégrination de Paul Claudel autour du monde n'est que l'image symbolique d'un autre voyage, un pèlerinage qu'il n'a pas cessé d'accomplir du monde à Dieu. Il éprouvait dès son enfant un attrait, disons, violent, pour cet univers qui lui était proposé. Voici par exemple comment il se décrit lui-même enfant dans un texte de connaissance de l'Est. Quel beau livre, ça. Vous savez, c'est le livre, soit dit en passant, qui a le plus marqué Mgr Félix-Antoine Savard, dont je vous parlerai après-demain. « Connaissance de l'Est » de Paul Claudel. Je cite. « Et je me revois à la plus haute fourche du vieil arbre, dans le vent, enfant balancé parmi les pommes. De là, comme un dieu sur sa tige, spectateur du théâtre du monde, dans une profonde considération, j'étudie le relief et la conformation de la terre, la disposition des pentes et des plans. L'œil fixe comme un corbeau, je dévisage la campagne déployée sous mon perchoir. Je suis du regard cette route qui, paraissant deux fois successivement à la crête des collines, se perd enfin dans la forêt. Rien n'est perdu pour moi. La direction des fumées, la qualité de l'ombre et de la lumière, l'avancement des travaux agricoles, cette voiture qui bouge sur le chemin, les coups de feu des chasseurs. Point n'est besoin de journal où je ne lis que le passé. Je n'ai qu'à monter à cette branche, et, dépassant le mur, je vois devant moi tout le présent. La lune se lève. Je tourne la face vers elle, baignée dans cette maison de fruits. Je demeure immobile, et de temps en temps, une pomme de l'arbre choit, comme une pensée lourde et mûre. En somme, c'est l'univers qui l'appelle. Ça le passionne. Et comment concilier avec la nouvelle exigence qui s'est manifestée impérieusement dans l'après-midi du 25 décembre 1886? Pendant une grande partie de sa vie, Claudel sera partagé entre ces deux appels, qui ne sont pas, sans doute, contradictoires, l'appel de Dieu et l'appel de l'univers. Combien je ressens ça moi-même, l'appel de l'univers. J'ai été touché dans mon enfance par ce monde des astres qu'on contemplait l'été avec mon frère Jules. La Voie lactée, cet univers immense dans lequel nous sommes plongés. Et l'univers de l'infiniment petit. Ah, l'appel de Dieu, l'appel de l'univers. Ce sera par exemple, 20 ans après, tout le sujet de « La muse qui est la grâce ». Ah, c'est pas très long ce texte, mais c'est superbe. Très beau. Quoique le sujet de la ville aussi soit bien différent d'un autre texte, nous trouvons encore notre deuxième drame tout chargé de questions analogues à Tête d'or. Il s'agit cette fois de l'ordre social de la cité. Nous voyons s'écrouler devant nous toute cette orgueilleuse Babel que les hommes ont tenté de construire en s'inspirant de la seule raison et qui est en réalité fondée sur le néant, puisque son grand ingénieur, Lambert de Bème, proclame « Rien n'est ». Mais le destructeur lui-même, qui s'appelle Avare, qui agit poussé par un démon où nous reconnaissons celui qui déjà animait Tête d'or, est incapable de refaire ce qu'il a détruit, et justement détruit. Il abandonne la royauté à son fils Ivor, et celui-ci ne parviendra à reconstruire la cité qu'en s'inspirant des conseils que lui donne Cœuvre, le poète devenu évêque, car Cœuvre a reçu le don de comprendre le sens caché des choses. C'est ceux qui comprennent le sens caché des choses qui peuvent refaire notre société. Quand on discute pendant des heures des attentats à la pudeur, des viols, des meurtres, du vol, etc. C'est ceux qui comprennent le sens caché des choses qui peuvent tout guérir. Cœuvre, cet évêque, sait que ce monde des apparences dissimule un autre monde, qui est le monde véritable, et il demande qu'au centre de la cité nouvelle, on ménage un lieu vacant qui sera consacré à la prière. Et avec la jeune fille Violaine, bien, C'est le théâtre de la Champagne natale qui est à son tour cité à la barre. Et puis Violaine retrouve tout, qui a volontairement renoncé à toute possession en ce monde. Il est dur pour un homme tel que le jeune Claudel, qui était tendu vers la possession. Il disait « Je voulais tout voir, avoir avec appropriation. » Mais il est dur de renoncer et de ne posséder les choses désormais que comme ne les possédant pas. Et finalement, on sait bien que c'est quand on donne tout à Dieu qu'on retrouve tout. C'est clair, c'est sûr, ça. Si notre société donnait tout à Dieu, elle retrouverait tout. Aujourd'hui, il est question, comme vous savez, de Paul Claudel, qui a aussi écrit « L'échange ». Il a écrit ça aux États-Unis, où Claudel débutait alors dans sa carrière consulaire. C'est le premier des poèmes d'exil. Parce que l'exil est, depuis sa conversion, on pourrait dire la vocation propre de Paul Claudel. C'est très important. Et cet exil doit être entendu de deux manières. D'une part, c'est le fait que le poète passera à partir de 1892 la plus grande partie de sa vie en dehors de la France. Mais il est un exil bien plus important, plus essentiel, qui est celui de tout chrétien jeté dans ce monde, et dont le premier exil n'est que l'image. Nous sommes, nous, chrétiens, en fait des exilés, mais nous sommes dans ce monde. Déjà Rimbaud le lui avait dit. Il disait, lui, en une phrase lapidaire, « Nous ne sommes pas au monde, la vraie vie est absente. » Nous sommes vraiment dans ce monde quand la vie du Dieu vivant est en nous. Autrement, nous sommes des zombies. Au moment où Claudel a la révélation fulgurante de la vraie vie, sous la forme de cet enfant nouveau-né, là, le jour de Noël 1886, il apprend l'exil essentiel. Toute sa vie ne sera qu'une longue méditation de cette vérité. C'est pourquoi la grâce se présente volontiers à lui sous la forme d'un glaive qui coupe et qui retranche, qui perce aussi. Il a donc une grande dévotion à Notre-Dame des Sept Douleurs. Il existe bien des formes de conversion. Celle de Claudel fut d'abord brutale et fulgurante. Elle dut s'achever ensuite par un combat pied à pied, comme je vous l'ai dit, contre la nature en tout ingénieusement contrariée, écrit-il. Il écrit ça pour dire que le combat du chrétien, ce combat spirituel, se fait contre une nature déchue. On comprend qu'au milieu de ces combats, Claudel ait songé à trouver quelque refuge. Il existe ici-bas, on le sait, des monastères, des havres, qui sans interrompre absolument l'exil auquel nous sommes condamnés ici-bas, nous ménagent, tout au moins, le repos de la règle de Saint-Benoît, et de la prière de la liturgie. Et c'est ainsi d'ailleurs que les monastères étaient conçus par les chrétiens d'autrefois, comme en témoignent par exemple bien des textes de Saint-Bernard. Mais vers la fin de son premier séjour en Chine, qu'il a tant aimé, à la fin du dernier siècle, alors que Claudel écrivait « Le repos du septième jour », ah, il faut lire ça, son amour pour la Chine est fantastique, mais il semble s'être produit, on pourrait dire chez lui, là, une sorte d'apaisement, et voici plus de 10 ans là, qu'il lutte contre Dieu, et ce combat n'est pas sans rappeler celui de Jacob avec l'ange, vous savez, dans l'Ancien Testament, il ne sait pas encore au juste ce que Dieu exige de lui, alors il a décidé de se donner lui-même tout entier. Et lors de son retour en France, il va faire une retraite à l'abbaye de Ligugé, près de Poitiers, la plus ancienne abbaye de France, fondée au IVe siècle, en 361. Je vous l'ai déjà dit, elle est toujours là, les moines bénédictins y sont présents, j'y suis allé plusieurs fois, c'est merveilleux. Il veut se faire moine de Saint-Benoît à Ligugé. Mais l'abbé, auquel il fait part de ses intentions, lui conseille de repartir encore une fois pour la Chine, afin d'éprouver la solidité de sa vocation. Et c'est alors la deuxième grande crise dans la vie de Claudel. Il l'a exposée sous forme dramatique dans « Partage de midi », qu'on vient de présenter au Rideau Vert à Montréal. les exigences de la conversion. Ils sont soulignés avec une étonnante lucidité. Le Dieu qui a conquis le cœur du jeune Claudel est un Dieu jaloux et qui n'admet aucun partage. Dieu n'admet aucun partage dans notre cœur. Il nous veut tout entier parce qu'il sait que notre bonheur est à cette condition. Le poète avait pensé tout régler en devenant bénédictin. Et parce qu'il a été mystérieusement repoussé, le voici seul de nouveau. Et l'univers des choses visibles se présente à lui sous une forme infiniment plus séduisante que dans la première jeunesse, parce que la femme est pour l'homme davantage que tout l'univers ensemble. J'ai fui en vain, dit-il, partout, j'ai retrouvé la loi, écrivait Claudel dans les vers d'exil. Et nous touchons ici l'autre face d'une conversion qui n'est pas contradictoire à la première, mais qui en est inséparable. Dès le 25 décembre 1886, en même temps qu'il éprouvait la présence vivante et personnelle de Dieu sous la forme d'un enfant nouveau-né, eh bien le poète Paul Claudel n'ignorait pas qu'il allait se heurter à de terribles exigences, et ces exigences répugnaient en elles-mêmes à ce jeune homme plein de force. Il était alors, il les avait déjà indiqués à plusieurs reprises dans tout le premier cycle de son théâtre. Il existe un ordre qui gouverne l'amour de l'homme pour la femme et celui de la femme pour l'homme, et cet ordre avait été admirablement exprimé dans l'échange. C'est à lui, à cet ordre-là, que se heurte Meza en présence d'Isée. Elle est pour lui l'interdiction, puisqu'elle est la femme d'un autre. Elle est la femme d'un autre. Et voici le poète tenté, comme le fut le saint roi David, à la vue de Bethsabée, femme d'Uri. Il succombera comme David, et c'est tout le sujet de partage de midi. Alors commence pour lui dans l'épreuve une deuxième conversion. Car ce n'est pas en un jour que l'on se relève d'une semblable plongée dans le péché. D'autant plus grave, en un sens, que pas une seconde au cours de cette terrible période, la foi de Claudel n'est ébranlée, il est toujours catholique convaincu. Il en a pleuré. Et il en a porté témoignage lorsqu'il écrivait, quelques années plus tard, le texte de « Ma conversion » que je vous ai cité tout à l'heure. Mais ce fut presque à l'heure même du péché qu'il écrivait les deux traités principaux de l'art poétique, « Connaissance du temps » et traité de la connaissance au monde et de soi-même. Alors, retourné en France, Claudel se marie. Puis, au cours d'un troisième séjour en Chine, il écrit les cinq grandes odes. Ah, que c'est beau les cinq grandes odes. Qui sont encore toutes remplies de la mémoire du péché et de la double conversion. Et c'est seulement dans la maison fermée, la cinquième des grandes odes, que l'équilibre semble enfin reconquis dans cette maison fermée qu'est le mariage, qu'est aussi l'Église. L'Église, gardée aux quatre points cardinaux par les quatre vertus qui sont précisément appelées cardinales, la prudence au nord, la force au midi, la tempérance à l'orient et la justice à l'occident. Et le poème s'achève par une prière pour les morts. Cette touffe innombrable derrière nous, dont nous n'avons pas connu les visages, et dont nous ne savons même plus les noms, mais qui sont les racines profondes de l'arbre familial. Moi, c'est pourquoi à la messe je prie toujours, tous les jours, pour mes ancêtres, jusqu'au début de leur établissement ici, en terre du Québec, où ils ont fondé Berthierville. L'œuvre dramatique se poursuit car la forme dramatique ne fut jamais pour Claudel qu'un moyen, au fond, d'exprimer le trouble, la division de son âme. Puis il y a la trilogie formée par l'Otage, le Pain dur et le Père humilié. Je retrouvais ces jours-ci le programme de l'Otage de Paul Claudel à la salle du Jésus les 3, 4, 7 et 11 décembre, quatre soirs seulement, 1943. C'était Ludmila Pitoeff et sa compagnie qui présentaient l'Otage. Qui jouait là-dedans? Georges Amiot, le papy, Roger Garceau, le curé Badilon, Jacques Lavigne, le vicomte Ulysse Agénor, Georges de Coufontaine et Dormant, et Jean-Pierre Masson, qui jouait baron puis comte Toussaint Turlure, et c'est Ludmila Pitoev qui jouait évidemment Signe de Coufontaine. Ah, c'était le bon temps. C'était le bon temps. J'étais jeune, puis avec le soulier de satin, mais tout est vraiment consommé, on sait tout ça. Et alors seulement il sait que tout est bien, que tout est grâce, et il peut proférer le dernier mot du drame du soulier de satin, « Délivrance aux âmes captives ». C'est ce que le Christ est venu nous délivrer. Il est venu nous libérer. Et nous retrouvons ici, on le voit, l'idée centrale de toute l'œuvre de Claudel depuis le 25 décembre 1886. Une œuvre qui est toute dominée par l'événement ce jour-là. Nous sommes captifs de nos péchés. Et avant tout de notre préférence de nous-mêmes. Nous nous préférons. Et comment Dieu peut-il, par sa grâce, passer au travers de cette épaisse muraille qui nous rend prisonniers des apparences d'un monde illusoire? Dieu ne le peut que si nous sommes blessés d'une blessure inguérissable. Et nul n'est mieux armé pour pratiquer cette bienheureuse blessure que la femme. Cet être semblable à nous et dont la beauté paraît nous promettre le retour dans le paradis qu'elle nous a fait perdre autrefois, tel est le rôle de l'amour humain, comme introduction à l'amour divin. Combien d'hommes stupides sont guéris par le cœur d'une femme plein d'amour? Bien sûr, il ne faut pas prendre ceci comme une vérité générale et valable pour tous les hommes. C'est une vérité qui a été valable pour Claudel. J'essaie de retracer ici l'histoire de sa conversion, qui a rejailli sur bien d'autres âmes, et pour se donner à Dieu complètement, ainsi qu'il avait résolu de le faire en 1900. Il faut aussi s'être totalement dépouillé de soi-même. Le moine bénédictin qui, à Ligugé, a repoussé Claudel, était sans doute bien inspiré. Une autre épreuve plus dure et plus périlleuse que toutes les précédentes était probablement nécessaire pour que son oblation soit totale. Certains vont à Dieu par le chemin plus court. Mais d'autres n'y peuvent parvenir que par des voies plus compliquées et plus dangereuses. Et c'est le lot de la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? On le sait. Combien de fois on se détourne de Dieu et on revient jusqu'au jour où on se donne totalement. Ah, le salut de Claudel importait aussi à des multitudes. C'est pourquoi l'on pouvait essayer de parler, comme il l'a fait lui-même, sans indiscrétion, de sa conversion. Pour soudaine qu'elle ait été dans ses commencements, elle n'en a pas moins impliqué une lutte sévère. Une lutte sévère contre soi-même. C'est ça la conversion. Ce n'est pas sans peine que le grain semé au milieu des broussailles croît et fructifie. C'est dans l'Évangile. Il faut continuellement détruire les mauvaises herbes qui tendent à l'étouffer. Les flatteries du monde sont puissantes sur le cœur d'un poète comme sur le cœur de chacun d'entre nous. Les flatteries. Comment concilier avec la foi en un Dieu transcendant cet amour des choses visibles dont Claudel était alors tout possédé aussi? Ah, il lui a fallu d'abord se débarrasser des faux dieux et de fouler aux pieds tous ces faux dieux. Il a bien des fois chanté sur eux un chant de triomphe, au point même que certaines oreilles trop délicates en ont été presque agacées. Mais ces idoles, forgées par la raison abstraite et mécanique du 19e siècle, n'étaient pas encore l'adversaire le plus redoutable, alors qu'elles gisaient en décombre autour de Paul Claudel, vainqueur. Il a subi le plus rude assaut, qui n'était pas contre la foi, mais contre les mœurs. Il a fallu recommencer le combat. Et non plus contre de prétentieuses vanités, mais contre la réalité la plus poignante qui puisse toucher un cœur d'homme. Et l'issue victorieuse de ce combat, ben, c'est le dépouillement. Comme le dit quelque part Paul Claudel, l'on ne peut entrer que nu dans les conseils de l'amour. Quelles qu'en soient les origines puis les modalités, comme le dit Jacques Madaule, une conversion n'est jamais achevée. Elle dure autant que notre vie, et c'est pourquoi l'œuvre entière de Paul Claudel n'est pas de trop pour servir de commentaire perpétuel à l'événement de sa conversion du 25 décembre 1886. Car le converti demeurera toute sa vie cet homme étrange que Claudel a si souvent dépeint et dont un des traits essentiels, c'est qu'il transporte avec lui la réalité de son exil. Comme le dit toujours Jacques Madaule, il se sert d'une langue qui est bien la nôtre, même quand elle déborde un peu la langue de Claudel. Seuls quelques imbéciles ont osé contester l'authenticité de sa langue. Les amateurs de classification peuvent le rattacher à quelques grands courants, quelques maîtres, quelques grands maîtres. Il demeure pourtant, en Claudel, je ne sais quoi d'étranger, qui attire en même temps qui scandalise. C'est cette vérité vivante que tant de mots n'ont pas réussi à exprimer. La langue de Claudel est bouleversante. Le vrai Claudel, vous savez, c'est pas le personnage chamarré de décoration puis de plaques. On a vu ses photos dans des magazines. Il est photographié en uniforme d'ambassadeur de France. C'est pas non plus cet auteur qui est fêté au théâtre français. On a vu des photos de ça aussi. C'est pas la gloire nationale. C'est pas l'homme public. On s'est pris de haine contre Claudel d'une façon abominable. On a écrit des choses insensées. Ta tombe, même, en 1980, a été profanée. Et puis, la biographe de sa sœur Camille, Anne Delbé, en 1982, l'a attaquée d'une façon abominable en vantant, avec raison d'ailleurs, le génie de sa sœur Camille, qui était sculpteur, Camille Claudel. L'ambassadeur académicien est la cible, je dirais permanente, d'une espèce de coalition de toutes sortes de gens et même de certains chrétiens, ceux à qui l'Église est insupportable. Ils ne supportent pas la foi de Claudel. Ils sont ennemis de la foi. C'est curieux. Or, il y a Gilles Cornec qui a publié chez Gallimard un ouvrage de 245 pages qui prend très bien la défense de Claudel de façon très intelligente. C'est un jeune auteur et c'est un régal. Chez Gallimard, Gilles Cornec, C-O-R-N-E-C. Un ouvrage à lire, mais c'est tellement plein d'ouvrages sur Claudel. Je vous lis la fin d'un petit ouvrage de Daniel Rops, où il dit, très simplement, « Lieu de paix, s'il ne doit plus être au monde, c'est l'endroit où il est enseveli. Parmi les 300 ou 400 assistants qui avaient descendu le sentier inégal de l'église de Brangues jusqu'à la tombe, tout le monde a éprouvé une impression étrange. La douleur était là, la transcendance de la vie et de toute chair et de tout réel, qui fut la conviction profonde de Claudel. Elle était là, sensible, immédiate, s'imposant à tous les esprits. Et au moment où Jean-Louis Barrault, dont la gorge serrée d'émotion retenait presque la belle voix, évoqua le haut peuplier solitaire près de la tombe, au haut duquel bien souvent Claudel mena ses hôtes de confiance pour leur montrer l'endroit exact où il reposerait, toute l'assistance leva les yeux vers cet arbre magnifique, et qu'on eût dit conscient de la mission significative dont désormais il était investi. Il tremblait de la tête, dans le midi solide, où il n'y avait plus ni hésitation ni partage. Il semblait mystérieusement acquiescer à une parole que nous n'entendions pas. Et le jet vertical de son tronc dépouillé paraissait bien le lien vivant, le trait d'union tangible entre cette chair mortelle désormais enfouie en ses racines, les racines du peuplier, et le ciel immatériel où résident le génie et la foi. Claudel a été attaqué aussi par Henri Guillemin. J'ai tout ça ici dans les études classiques. J'ai lu ça, la conversion de Paul Claudel. Il s'en moque un peu. Il a écrit ça moins de 2 ans après la mort de Claudel. Mais j'ai la réponse parue beaucoup, bien des années plus tard, en janvier-février 1981, dans la revue Communio de Jean-Robert Armogat, l'exemplaire conversion de Paul Claudel. Je vous ferai un jour une émission sur tout consacrée à la conversion de Paul Claudel. Enfin, j'ai Écoutez, dans ma jeunesse, Jeanne Aubuchet, j'ai eu le plaisir de la réentendre ces jours-ci sur les ondes de Radio Ville-Marie. Jeanne Aubuchet que j'avais entendue à l'Opéra de Lyon et que j'ai écoutée sur 10 dans ma jeunesse je ne sais combien de fois. Mais quelque chose qui m'a beaucoup enchanté dans ma jeunesse, c'est la messe là-bas. Mais je vous lis ce texte de Paul Claudel. Mort en 1955. Que dis-tu de ce festin maintenant que nous consommons seul à seul et corps à corps? Le pain que je te donne à manger est-il pur? Et le vin que je suis est-il fort? De quoi te servirais-tu pour séparer ta personne de la mienne? Quelle est la partie de ton être où je ne sois et qui ne m'appartienne? Ego sum, c'est moi. Ta maison est assez grande pour qu'elle me contienne. Avant que tu le saches, j'étais là, et je demeure avec cet homme que j'ai fait. Tu cesserais d'exister si je me retirais. Viens avec moi où je suis en toi-même, et je te donnerai les clés de l'existence. Là où je suis, c'est là éternellement qu'est le secret de ta naissance. C'est en vain que tu te débats. Tu ne te défendras pas éternellement contre ma paix. Le sens-tu ou non que je suis là? Ce convive que tu attendais? Mon repos est-il assez profond pour toi? Que dit-il ce pauvre cœur? Si nous n'étions différents, il n'y aurait pas ce désir, il n'y aurait pas ce besoin, il n'y aurait pas cette grande étreinte comme entre les époux. Si tu n'étais pas mon fils, je ne serais pas aujourd'hui ce père à qui l'enfant prodigue jette les bras autour du cou. Depuis qu'enfin nous nous sommes atteints dans cette abdication et dans cet effort, depuis le temps que nous sommes unis, qu'est-ce que nous avons fait de la mort? Pour ne pas me préférer, il aurait fallu ne pas me connaître. Comment fera-t-il pour mourir celui que j'ai admis jusqu'à mon être? Où sont tes mains qui ne soient les miennes et tes pieds qui ne soient à la même croix fixée? Où es-toi qui ne m'écoutes? Je suis mort et je suis ressuscité une fois pour toutes. Nous sommes très près l'un de l'autre. Et il nous devient de plus en plus difficile d'être ailleurs. Comment faire pour te séparer de moi sans que tu m'arraches le cœur? Ça, c'est du très beau, Claudel. Et je pense au processionnal aussi très beau, où il dit à un moment donné, ça nous fait penser à nos églises un peu vides. Peu de fils restés fidèles. Mais quand nous serions moins encore, notre foi n'en est pas ébranlée, car les promesses de Dieu ne passent point, et les paroles de l'homme ne sont que du vent et de la fumée. C'est plein. Dans la Pléiade, les œuvres poétiques, c'est aussi là que j'ai pêché tout ça. Ah, dans tous ces livres, les morceaux choisis, il y a des lits, des textes sur Marie. Il est midi, je vois l'église ouverte. Il faut entrer, Mère de Jésus-Christ. Je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. C'est plein, c'est beau, c'est magnifique. Et on peut lire, si on veut, de François Varillon, son beau Claudel, dans la collection Les Écrivains devant Dieu. On peut lire Gabriel Marcel, on peut lire tellement de livres, tellement, il y en a, il y en a.